Donc ce soir, mardi 23 mai, nous allons voir la hiérarchie et de l'Église. Est-ce que le Christ a voulu un clergé? Question qu'avait posée un professeur de l'Institut catholique de Paris. Est-ce que vraiment le Christ a voulu faire un clergé? Alors je lui ai répondu, mais il a choisi 12 apôtres. Voilà. Il a choisi 12 apôtres. Donc il a forcément choisi au moins 12 évêques. Ensuite, certains vont dire que après, c'était uniquement pour le temps du Christ. Or, saint Paul va constituer évêque d'autres hommes. Et de la même manière, le saint Paul et Barnabé vont recevoir l'imposition des mains pour aller en mission. Donc, cette imposition des mains, cette ordination que les apôtres ont reçue le jeudi saint lorsque le Christ a dit « Faites ceci en mémoire de moi », il les a constitués prêtres selon son ordre, c'est-à-dire non plus selon la famille d'Aaron, au sein de la tribu de Lévi, mais selon le nouveau sacerdoce du Messie, descendant du roi David, de la tribu de Juda. Mais en fait, dans l'épanouissement de ce sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, nous dit le psaume, et un roi de Jérusalem qui n'avait ni descendance, ni ascendance dans la Sainte Écriture, et qui est donc utilisé par le psalmiste pour signifier que c'est un sacerdoce différent. Le prêtre, c'est celui qui fait le pont entre le ciel et la terre, c'est un pontife au sens propre. Il est celui qui offre à Dieu la victime propitiatoire pour les péchés, après avoir accompli les deux premières fins de la prière, qui sont l'adoration et l'action de grâce. On reconnaît que Dieu est Dieu et le Tout-Puissant. C'est la fin latrotique de la prière, le culte de l'atrie qui est la divinité, la toute-puissance. La fin eucharistique de la prière qui est la fin d'action de grâce. Ensuite, lorsque nous avons manqué ces grâces, nous les avons gâchés, nous avons fait obstacle à ces grâces, c'est la demande de pardon. Et donc on offre en réparation notre âme avec du regret ou un acte qui nous coûte. Un pèlerinage, plus de temps donné à la prière ou une aumône. Pardonner à quelqu'un plus généreusement, parce que de toute façon on doit pardonner, hein, donc c'est pas méritoire de pardonner, c'est méritoire accidentellement de pardonner, hein, parce qu'on doit pardonner, selon la volonté de Dieu. Et donc, on répare le mal qu'on a pu causer, et on essaye de limiter les effets de nos péchés. Ensuite, on demande d'autres grâces. C'est la quatrième fin de la prière. Eh bien, le prêtre, lui, va faire cette prière pour le peuple. Et le Christ est donc le prêtre par excellence. Il est à la fois le prêtre, celui qui présente la victime et qui est lui-même la victime, et l'autel, le lieu de la prière sur lequel la victime est offerte. D'où la préface il y a une préface de Pâques ou du Christ roi qui dit que justement le Christ est à la fois le prêtre, la victime et l'autel sur lequel la victime est offerte. Dans l'Ancien Testament, ce sacerdoce était héréditaire par les descendants d'Aaron, qui était une famille d'une des 12 tribus d'Israël, la tribu de Lévi. À partir du Christ, c'est tout homme qui est à qui on impose les mains avec l'intention de lui donner le pouvoir de pardonner les péchés, d'offrir la sainte victime et aussi de prêcher avec autorité et de transmettre la foi avec autorité. C'est-à-dire que par gentillesse, et pour le sacerdoce commun des fidèles, n'est-ce pas, on va dire que tout le monde peut faire une exégèse de la Sainte Écriture ou exprimer sa spiritualité, mais en fait, voyez-vous, jamais une personne qui n'est pas prêtre ne pourra enseigner avec autorité dans l'Église. Il faut en avoir reçu la mission. La mission principale de cet enseignement, ce sont les évêques, et parmi eux, le premier d'entre eux qui est le pape, l'évêque de Rome, le successeur de Pierre qui est mort à Rome. Vous voyez, plus le pape dit qu'il est l'évêque de Rome, et plus il dit qu'il est le pape. Parce que qui est mort à Rome? Saint-Pierre, et Saint-Pierre était le prince des apôtres. Alors plus il le dit, et plus il est le pape, vous voyez. On aura beau essayer de diminuer le rôle du pape en disant « mais il est l'évêque que de Rome », sauf que celui qui est mort à Rome, eh bien c'est Pierre, et il est le prince des apôtres. Donc c'est un cercle vicieux, n'est-ce pas? « Ah mais je suis que l'évêque de Rome !» Eh bien justement, il est mort à Rome. Qui? Le prince des apôtres. Donc vous êtes le pape. Oui, mais je suis l'évêque de Rome plus particulièrement. Mais oui, mais Rome, c'est le siège du successeur de Pierre. Donc vous êtes le pape. Oui, mais à Rome. Oui, mais le pape. Donc on peut s'amuser comme ça pendant des heures. Et voilà. Et donc, cette hiérarchie, on la voit dans les Actes des Apôtres, où saint Pierre va ordonner Tite et Timothée sur des sièges épiscopaux. Et il y avait beaucoup d'évêques à l'époque, parce qu'en fait l'évêque était en quelque sorte le curé d'une grande ville. Parce que le christianisme a surtout se développé là où il y avait des synagogues, et là où les païens se sont convertis en nombre, mais c'était surtout dans les villes. C'est la raison pour laquelle le mot païen vient de paysan. Paganus, c'est celui qui ne vit pas en ville, qui vit à la campagne. Pagne, campagne, pagne, c'est paganus, c'est païen. Et donc, les campagnes ont été évangélisées plus tardivement parce qu'il fallait aller au fin fond des forêts pour arracher les arbres sacrés et les pierres sacrées. La légende du roi Arthur est toujours imprégnée de ces dolmens et d'une épée qu'on rentre dans une pierre, qu'on n'arrive pas à sortir. Tout ça, c'est quand même d'inspiration relativement païenne, même si le roi Arthur, lui, est chrétien. Et même Merlin, qui était pas un sorcier, mais qui était un astronome d'Arthur, il a fait suivant la tradition celtique, hein, il a fait des poèmes sur la Sainte Trinité. Hein, donc c'était pas un druide, Merlin, pas l'enchanteur justement. Voyez. Donc voilà, c'est, à bon entendeur, salut sur les traditions celtiques. Tout ça pour vous dire que donc Dieu a voulu une hiérarchie. Et cette hiérarchie est un bien parce que nous avons besoin de recevoir de Dieu la vérité, la bonté et la beauté qui est le propre de Dieu. Et l'Église est hiérarchique parce que Dieu est le roi. Et donc c'est ce mystère d'une Église visible, c'est parce que le Christ est le Messie, est le Sauveur, est le descendant de David, est le roi des rois. Donc, quand il s'en va, il laisse une monarchie. Et le pape est un roi dans son ordre, c'est-à-dire qu'il est le rex, il régit l'Église, il donne à l'Église ses lois et son but, qui est le salut des âmes, la gloire de Dieu et le salut des âmes. les intentions du pape, de Pierre, les intentions des évêques sont absolument objectives. Elles sont les intentions du pape, la propagation de la foi, le baptême, n'est-ce pas, de tous, aller et baptiser toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, quand les personnes sont baptisées, qu'elles soient fidèles à leur baptême et donc qu'elles se convertissent si elles sont dans le péché. Donc deuxième intention pontificale, la conversion des pécheurs, le baptême, la sanctification de toutes les âmes, la conversion des âmes pécheresses après avoir reçu le baptême éventuellement, enfin qui seraient éventuellement tombées dans le péché. Ensuite, l'extinction des hérésies et des schismes, troisième intention pontificale. Or, des hérésies, il y en a eu dès le 1er siècle, dès le 2e siècle. Plus particulièrement l'hérésie arienne qui considérait Jésus comme simplement un homme aimé spécialement de Dieu, n'est-ce pas ? Donc on révèle que Dieu est amour, qu'il s'est fait homme, qu'il est mort pour nous sur la croix et on baptise au nom de la mort et de la résurrection du Christ. Ensuite, si on est infidèle par faiblesse, voire par malice à ce baptême, il faut se reconvertir. Ensuite, si nous avons des querelles et des disputes, il faut arrêter ces schismes. Il faut ensuite arrêter les erreurs qui sont les hérésies. Et quatrième intention du pape, eh bien, quand tout se passe bien, eh bien, que les États gouvernés par la foi chrétienne vivent en paix, qui est la quatrième intention pontificale. Et la cinquième, c'est la prospérité de la chrétienté et le bien de chaque chrétien, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit... Voilà. C'est les cinq grandes intentions du souverain pontife. Et ce sont les intentions, eh ben, en fait, du Christ. Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc cette hiérarchie, cette mission du chef... C'est la mission que donne le Père à son Fils. Sanctifier l'humanité et la sauver. Donc, les apôtres ont cette mission très simple de sanctifier et de sauver. Et ils vont, dès le début, se diffuser par toute la terre pour sanctifier et sauver. Ils vont baptiser, ils vont fonder des églises et ils vont laisser des prêtres dans ces églises. En règle générale, on prenait des anciens, mais pas toujours, puisque vous avez Timothée et Tite qui étaient jeunes, mais remplis de l'Esprit Saint. Alors, dans le catéchisme de l'Église catholique de 1992, au numéro 770 et suivant, nous avons ce qu'on appelle le mystère de l'Église. L'Église est dans l'histoire, mais elle la transcende en même temps. C'est uniquement avec les yeux de la foi que l'on peut voir en sa réalité visible, en même temps une réalité spirituelle porteuse de vie divine. Pourquoi la réalité visible ? Eh bien justement, ces prêtres, ces évêques, avec des prêtres qui étaient des saints et d'autres qui étaient des assassins. Voilà. Alors, la lettre de Clément de Rome. Nous sommes au 1er siècle, dans les années 90. Clément est le deuxième successeur de Pierre. Pierre, Clément, ou le quatrième successeur de Pierre. Quatrième pape. On appelle les grands évêques de ce siècle-là les pères apostoliques. Alors, les pères apostoliques, parce qu'ils ont connu les apôtres. Clément a connu les apôtres. Alors, ici, je vous lis la lettre de Saint Clément de Rome pour vous donner une idée de la hiérarchie qui existait déjà à l'époque. Mais l'épître de saint Clément est adressée aux Corinthiens, hein, l'église de Corinthe. L'église de Dieu qui séjourne à Rome, à l'église de Dieu qui séjourne à Corinthe, à ceux qui ont été appelés et sanctifiés dans la volonté de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données du Dieu Tout-Puissant par le Christ Jésus en abondance. Ce sont les malheurs et les épreuves dont nous avons été frappés soudainement et coup sur coup qui nous ont retenus trop longtemps à notre gré de nous tourner vers vous, bien-aimés, et de nous occuper des affaires en litige parmi vous, de cette sédition qui n'a ni droit ni place parmi des élus de Dieu, œuvre de souillure et d'impiété qu'une poignée d'individus a commencée. De quoi parle-t-il ? L'Église de Rome, la persécution depuis Néron, les Romains, les chrétiens romains souffrent beaucoup et essayent d'éviter le martyre. Et il apprend qu'à Corinthe, il y a un schisme, une dispute entre chrétiens. Avec sans doute un prêtre d'un côté, un prêtre de l'autre, ou un évêque. Et le feu qu'ils ont allumé, ils l'ont porté à un tel degré de démence que votre nom révéré, célébré, justement aimé de tous, s'en trouve grandement décrié. Qui donc n'est revenu de chez vous, convaincu de la qualité et de la solidité de votre foi, plein d'admiration pour la sagesse et la mesure de votre piété dans le Christ, proclamant partout la générosité de votre accueil, et levant au nu la perfection et la sûreté de votre science. Vous agissiez en tout sans exception de personne, vous marchiez dans les commandements de Dieu, vous obéissiez à vos chefs, vous rendiez à vos anciens l'honneur qui leur est dû. Ben dites-moi, dans les années 90, c'était déjà bien constitué. Mais vous savez que la synagogue était bien constituée aussi. Hein. Quand vous aviez un chef de synagogue, tout le monde lui obéissait. Avec respect, parce qu'il était normalement vertueux. Aux jeunes gens, vous demandiez une attitude posée et digne. Aux femmes, vous recommandiez d'accomplir tous leurs devoirs avec une conscience irréprochable, sainte et pure, aimant leur mari comme il convient. Vous leur enseignez à gouverner saintement leur maison, sans se soustraire à la règle de l'obéissance en toute discrétion. Donc, ne me jetez pas des pierres. C'est la douceur féminine par rapport à l'autorité masculine. Et bien, vous pourrez essayer de changer ça, vous n'y arriverez jamais. Voilà. Et vous verrez, quand les Afghans nous apprendront la manière un peu ancienne dont ils traitent les femmes, porte de la chapelle, vous verrez que vous regretterez la soumission respectueuse des femmes chrétiennes. Voilà. On prend rendez-vous. Tous, vous vous montriez humbles, exempts de jactance, plus prompt à obéir qu'à commander, plus heureux de donner que de recevoir. Les viatiques du Christ vous suffisaient, et c'est à eux que vous appliquiez votre esprit. Les viatiques sont les moyens de vivre la via, la voie sur terre, vers le ciel. Oui, vous teniez ces paroles soigneusement gravées dans votre cœur, et ces souffrances étaient devant vos yeux. Donc la passion du Christ. C'est ainsi qu'une paix profonde et féconde vous avait été donnée dans un désir insatiable de faire le bien, et une abondante effusion de l'Esprit-Saint s'était répandue sur tous. Il n'y avait en vous que volonté droite, bon zèle, confiante piété, lorsque vous éleviez les mains vers le Tout-Puissant pour lui demander de vous regarder avec bienveillance si vous aviez commis quelque faute involontaire. C'est une traduction un peu particulière, une faute est toujours volontaire. Mais, vous voyez, une faute de faiblesse. Vous luttiez jour et nuit pour toute la communauté des frères, afin que soit sauvé, grâce à votre compassion et à votre communion de sentiments, le nombre des élus de Dieu. Vous étiez sincère, simple, sans rancune. Toute sédition, tout schisme vous faisait horreur. Vous pleuriez sur les fautes de votre prochain, ses défaillances étaient les vôtres, selon vous. Vous étiez sans repentir dans toutes vos bonnes actions, c'est-à-dire sans doute, sans hésitation, hein, c'est une traduction un peu ancienne, prêt à toutes bonnes œuvres. Une vie toute de vertu et d'honneur était votre parure. Vous accomplissiez toutes vos actions dans la crainte de Dieu, Les commandements et les préceptes du Seigneur étaient écrits sur la table de vos cœurs. » Donc là, Saint Clément de Rome passe de la pommade, de la pommade, de la pommade, parce qu'après, « La gloire et la prospérité vous avaient été données en plénitude, et ce mot de l'Écriture s'était accompli pour vous, il l'a mangé et il a bu, il s'est engraissé et il a regimbé le bien-aimé. » Mais là, pas regimbé et résisté, mais il s'est exalté. De là sont nés la jalousie et l'envie. Vous voyez, vous étiez tellement prospère, tellement bien, qu'il y a eu un problème. De là sont nés la jalousie et l'envie, la discorde et la sédition, la persécution et le désordre, la guerre et la captivité. C'est ainsi que les manants s'en sont pris aux nobles, les petits aux illustres, les insensés aux sages, les jeunes aux anciens. Ainsi, adieu la justice et la paix, puisque désormais chacun a délaissé la crainte de Dieu, obscurci le regard de la foi, personne ne marche plus dans les commandements de Dieu, personne ne mène une vie digne du Christ, mais chacun marche selon les désirs de son cœur pervers, nourrissant en lui la jalousie ennemie de toute justice et de toute piété, par laquelle la mort est entrée dans le monde. » Voilà, oui, je vous avais dit que... Voici en effet ce qui est écrit. Le temps passa, et il advint que Caïn présenta des produits du sol en offrande à Dieu, et qu'Abel de son côté offrit des premiers-nés de son troupeau, et même de leur graisse. Or le Seigneur agréa Abel et son offrande, mais il n'agréa pas Caïn et son offrande. Et Caïn en fut très irrité et eut le visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Ton offrande était bonne, mais ton partage était mauvais. N'as-tu donc pas péché en cela? Apaise ta colère, ton offrande te reviendra et tu en seras le maître. » Et Caïn dit à Abel son frère, « Allons dans la plaine. » Et Caïn se jeta sur son frère et le tua. Vous le voyez, frère, la jalousie et l'envie ont commis un fratricide. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une citation de la Genèse chapitre 4 dans un texte du 1er siècle. Donc déjà, vous voyez, on ne peut pas dire que la Genèse est postérieure. C'est à cause de la jalousie de que Jacob, notre père, a fui devant la face de son frère Ésaü. C'est à cause de la jalousie que Joseph a subi persécution mortelle et captivité. C'est la jalousie qui a contraint Moïse de s'enfuir devant la face de Pharaon, roi d'Égypte. Voici en effet ce que lui avait dit l'un de ses compatriotes. « Qui t'a établi notre arbitre ou notre juge? Veux-tu me tuer, moi aussi, comme l'Égyptien que tu as tué hier ?» Exode, chapitre 11, verset 14. Donc, vous voyez, Saint Clément cite la Sainte Écriture avec facilité. « C'est à cause de la jalousie qu'Aaron et Marie, Mariam, furent chassés du camp. La jalousie a précipité Dathan et Abiron, tout vivant, en enfer. » Ça, c'est clair. Là, pour le coup, vous voyez, petite révélation en passant. Dathan et Abiron sont en enfer, donc l'enfer n'est pas vide. Vous voyez. Parce qu'ils s'étaient soulevés contre le serviteur de Dieu, Moïse. C'est à cause de la jalousie que David encourut non seulement la haine des étrangers, mais encore la persécution de Saül, roi d'Israël. Mais laissons les exemples des anciens et passons aux héros qui nous touchent de tout près. Prenons les généreux exemples que nous ont donnés des hommes de notre génération. C'est à cause de la jalousie et de l'envie que les plus grands et les plus justes d'entre eux, les colonnes, c'est-à-dire les apôtres, les colonnes de l'Église et les apôtres, ont subi la persécution et combattu jusqu'à la mort. Oui, regardons les saints apôtres. Pierre, victime d'une injuste jalousie, subit non pas une ou deux, mais de nombreuses épreuves. Et après avoir ainsi rendu son témoignage, il s'en est allé au séjour de la gloire où l'avait conduit son mérite. C'est par suite de la jalousie et de la discorde que Paul a montré quel est le prix de la patience. Chargé 7 fois de chaînes, exilé, lapidé, il devint héros du Seigneur au levant et au couchant et reçut pour prix de sa foi une gloire éclatante. Après avoir enseigné la justice au monde entier, jusqu'aux bornes du couchant, il a rendu son témoignage devant les autorités et c'est ainsi qu'il a quitté ce monde pour gagner le lieu saint, demeurant pour tous un illustre modèle de patience. C'est joli hein, de voir qu'en l'an 90, on reconnaît. À ces héros dont la vie a été sainte vient s'adjoindre une grande foule d'élus qui ont souffert par suite de la jalousie du monde, de Néron, des païens, toutes sortes d'outrages et de tortures, et sont devenus pour nous d'admirables exemples. C'est poursuivi par la jalousie que des femmes, nouvelles Danaïdes et Dircé, c'est pour faire référence à la mythologie païenne, qu'il y avait ces personnes mauvaises et ces personnes bonnes. Victime d'outrages atroces et sacrilèges, ont parcouru jusqu'au bout d'un pas ferme la carrière de la foi et ont remporté le prix glorieux malgré l'infirmité de leur nature. C'est la jalousie qui a séparé épouse et mari, faisant mentir le mot de notre père, Adam, « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. » Condamnation du divorce. La jalousie et la discorde ont versé de grandes cités et ruiné de puissantes nations. En vous écrivant tout cela, bien aimé, nous ne faisons pas que vous réprimander. Nous vous avertissons aussi, nous-mêmes, car nous sommes dans la même arène et le même combat. C'est pourquoi laissons là toutes les préoccupations vaines et inutiles et revenons à la règle glorieuse et sainte de la tradition. Vous rendez compte, dans l'an 90. Et voyons ce qu'approuve, ce qu'aime, ce qu'agrée celui qui nous a fait. Fixons nos regards sur le sang du Christ et apprenons combien il est précieux aux yeux de Dieu, son Père, répandu pour notre salut. Il a offert au monde entier la grâce de la pénitence. Parcourons tous les âges et nous verrons que de génération en génération, le Maître a laissé place à la pénitence pour tous ceux qui ont voulu se convertir à lui. Noé prêcha la pénitence et ceux qui l'écoutèrent furent sauvés. Jonas annonça leur ruine aux Ninivites, mais ceux-ci firent pénitence de leurs péchés et Dieu se laissa fléchir par leurs supplications, bien qu'ils fussent pour lui des étrangers. Les ministres de la grâce de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ont parlé de pénitence. Et le maître de toutes choses lui-même a dit de la pénitence avec serment « Je suis vivant, dit le Seigneur, je ne veux pas tant la mort du pécheur que sa conversion. » Ézéchiel chapitre 33, verset 11. « Repentez-vous, maison d'Israël, de votre iniquité, dit au fils de mon peuple, quand même vos péchés iraient de la terre au ciel, qu'ils seraient plus rouges que l'écarlate et plus noirs que le sac. Si vous vous tourniez vers moi de tout votre cœur et me dites « Père », je vous exaucerai comme un peuple saint. Et ailleurs, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue la méchanceté de vos âmes, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, secourez l'opprimé, soyez juste avec pour l'orphelin, plaidez pour la veuve, et alors venez et nous discuterons, dit le Seigneur. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige, quand ils seraient rouges comme la pourpre, je les rendrai blancs comme la laine. Si vous consentez à m'écouter, vous changerez les produits du terroir, vous mangerez les produits du terroir, bénédiction terrestre. Mais si vous ne consentez pas à m'écouter, c'est le glaive qui vous mangera. La bouche du Seigneur a parlé. Isaïe chapitre 1, versets 16 à 20. Alors, écoutons bien parce qu'il fait toute l'histoire sainte. Hein. Ainsi, soumettons-nous à sa magnifique et glorieuse volonté. Faisons-nous suppliants, lui demandant à genoux sa pitié et sa bonté. Et recourant à ses miséricordes, abandonnons les vaines préoccupations et la jalousie qui mènent à la mort. Fixons nos regards sur ceux qui ont été les parfaits serviteurs de sa magnifique gloire. Prenons Hénoch, le septième patriarche après Adam, qui, trouvé juste dans l'obéissance, fut pris, et l'on ne trouva aucun indice de sa mort. Donc quand l'Église vous dit que Hénoch est toujours vivant, ben c'est parce que tout le monde l'a dit. C'est pas parce qu'au XIXe siècle, tout d'un coup, il y en a qui dit « Oh, po, 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 ce sont des légendes !» Ah oui, mais enfin, lui, il le dit depuis le XIXe siècle, et pendant des siècles, et même avant, dans la synagogue, Hénoch est pas mort. Et il reviendra pour la fin des temps pour prêcher aux païens. Tandis qu'Élie, qui est toujours pas mort, lui, viendra pour prêcher aux juifs et aux musulmans. Noé, trouvé fidèle, fut chargé d'annoncer au monde la nouvelle création, et le maître sauva par lui les vivants qui entrèrent dans l'arche avec concorde. Abraham, appelé l'ami de Dieu, fut trouvé fidèle pour s'être montré soumis aux paroles de Dieu. C'est par obéissance qu'il quitta son pays, sa famille et la maison de son père, et pour avoir laissé derrière lui un pays de peu d'étendue, une famille de peu de puissance, une modeste maison. Il reçut en héritage les promesses de Dieu. Je passe, parce que là, il fait toute l'histoire sainte, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Parce que il va en arriver à eux. Il est juste et saint, frère, de vous montrer obéissant à Dieu, plutôt que de vous laisser entraîner dans l'arrogance et l'orgueil par les instigateurs d'une odieuse rivalité. car ce n'est pas un dommage quelconque, mais un grave danger que nous nous exposons en nous livrant témérairement à la volonté de ces hommes qui ne visent qu'à la discorde et à la sédition et cherchent à nous rendre étrangers au bien. Il y a des très grandes considérations. Alors là, vous avez toute l'histoire sainte qui se développe, avec des très nombreuses citations, des psaumes, c'est impressionnant. Mais à un moment donné, justement, il va leur dire pourquoi il cite tout ça. Constatons-le, il est tout proche de nous et rien ne lui échappe de nos pensées ni de nos calculs. Il est donc juste que nous ne discutions pas sa volonté. Sachant nous heurter à des hommes déraisonnables et insensés, tout enflés et bouffis d'arrogance plutôt qu'à Dieu, révérons le Seigneur Jésus-Christ dont le sang a été donné pour nous. Ayons le respect de nos chefs, la crainte de nos anciens. Il y a une hiérarchie. Ah bon, c'était pas les bitniks à l'époque, non? C'était pas un grand kibboutz, l'église catholique? Ben non. Non, non. Élevons nos enfants dans la crainte de Dieu, dirigeons nos femmes vers le bien. Qu'on puisse reconnaître en elles le charme de la chasteté, constater la sincérité de leur disposition à la douceur, que leur silence manifeste la discrétion de leur langue, que leur charité ne dépende pas du caprice de leurs inclinations, mais qu'elles exercent saintement, sans exception de personne, envers tous ceux qui craignent Dieu, qu'elle s'exerce. Que nos enfants aient part à l'éducation du Christ, qu'ils apprennent quelle est auprès de Dieu la puissance de l'humilité, le pouvoir de la chasteté, combien la crainte du Seigneur est belle et grande et capable de sauver tous ceux qui se laissent saintement conduire par elle en toute pureté de conscience. Voilà. Donc, ici, voyez-vous, Saint Clément résout un problème de querelle au sein de l'Église. Voilà ce qu'il dit des hérétiques. Des sots sans intelligence, des insensés qui n'ont rien appris, se moquent de nous et nous bafouent, voulant se donner de l'importance avec leurs idées. Or, que peut un mortel? Quelle est la force d'un fils de la terre? Alors vous me direz, mais comment ça se fait que des hommes aussi proches des apôtres puissent avoir des paroles aussi dures? Eh bien, parce qu'à un moment donné, il faut aussi appeler un chat, un fripon, un fripon. Oui. Voilà. Les apôtres nous ont annoncé la bonne nouvelle de la part de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Le Christ vient donc de Dieu et les apôtres du Christ. Cette double mission elle-même, avec son ordre, vient donc de la volonté de Dieu. Munis des instructions de notre Seigneur Jésus-Christ, pleinement convaincus par sa résurrection et affermis dans la foi en la parole de Dieu, les apôtres allaient, tout remplis de l'assurance que donne le Saint-Esprit, annoncer partout la bonne nouvelle de la venue du royaume des cieux. Ah bon, dès le premier siècle, c'est bien affirmé. Oui. À travers les campagnes et les villes, ils proclamaient la parole, c'est ainsi qu'ils prirent leurs prémices. Et après avoir éprouvé quel était leur esprit, ils les établirent évêques et diacres des futurs croyants. Et l'évêque, c'était l'équivalent d'un doyen actuellement. Il y avait plus d'évêques que maintenant. Oui. En effet, et elle dit en effet, j'établirai leurs évêques dans la justice et leurs serviteurs dans la foi. Qu'y a-t-il d'étonnant à ce que les apôtres à qui Dieu confia une si haute mission aient établi ses ministres? Puisque Moïse, le bienheureux serviteur fidèle établi sur toute la maison, a écrit dans les livres saints tous les ordres qu'il avait reçus, et les autres prophètes l'ont suivi et ont rendu témoignage aux lois qu'il avait instituées. Or, lorsque la jalousie surgit à propos du sacerdoce, et que les tribus se mirent à se disputer l'honneur de ce titre glorieux, Moïse ordonna aux chefs des 12 tribus d'apporter chacun un rameau portant le nom de leur tribu. Or, il y a ses rameaux en faisceau, les scella avec les anneaux des chefs, puis les déposa dans le tabernacle du témoignage sur l'autel de Dieu. Il ferma ensuite le tabernacle, en scella les agrafes, comme il avait scellé les rameaux. Et il leur dit, « Frères, la tribu dont le rameau germera est celle que Dieu a choisie pour exercer le sacerdoce et le service du culte. » Nos apôtres aussi ont su qu'il y aurait des contestations au sujet de la dignité de l'épiscopat. C'est quand même incroyable. C'est pourquoi, sachant très bien ce qui allait advenir, ils instituèrent les ministres que nous avons dit et posèrent ensuite la règle qu'à leur mort, d'autres hommes éprouvés succéderaient à leur fonction. Hein, la lettre de Saint Clément. Hein. Mais oui, mais c'est un faux, tout ça. On retrouve la lettre de Saint Clément dans des copies très anciennes. Ceux qui ont ainsi reçu leur charge des apôtres ont plus tard d'autres personnages éminents, avec l'assentiment de toute l'Église, ils ont servi le troupeau du Christ d'une façon irréprochable, en toute humilité, sans trouble ni mesquinerie. Si tous ont rendu un bon témoignage depuis longtemps, nous pensons que ce serait contraire à la justice de les rejeter de leur ministère. Et ce ne serait pas une petite faute de déposer de l'épiscopat des hommes qui présentent à Dieu les offrandes avec une piété irréprochable. Heureux les prêtres, les anciens, les presbytres, qui ont déjà parcouru leur carrière. Pour ceux-ci, du moins, elle s'est déroulée jusqu'au bout et ont rapporté son fruit. Ils n'auront plus à craindre qu'on vienne les chasser du poste qui leur a été assigné. Car nous voyons que vous avez retiré à plus d'un bon presbytre un ministère qu'il exerçait d'une manière irréprochable et qui lui valait l'estime de tous. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de reprocher aux Corinthiens d'avoir chassé des prêtres, mis en cause des évêques. Vous rivalisez d'ardeur, frères, dans les choses du salut. Vous vous êtes longuement penchés sur les Écritures saintes, qui sont véridiques, qui vous viennent du Saint-Esprit. Vous savez qu'elles ne contiennent ni injustice ni fausseté. Vous n'y trouvez pas que des justes aient été chassés par des hommes pieux. Les justes ont été persécutés, mais par des pécheurs, emprisonnés, mais par des impies, lapidés, mais par des méchants, mis à mort, mais par des hommes remplis d'une honteuse et criminelle jalousie. Ces souffrances, ils les ont endurées glorieusement. Que dire en effet, frère? Est-ce par des hommes craignant Dieu que Daniel a été jeté dans la fosse aux lions? Ananias, Azarias et Misaël, est-ce par des serviteurs doués au service inestimable et glorieux du Très-Haut qu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente? En aucune façon. C'est à ces exemples que nous devons nous aussi adhérer, frères. Donc là, voyez-vous, qu'est-ce qu'on voit indirectement? Or, votre schisme en a perverti beaucoup. Et il a jeté beaucoup dans le découragement, beaucoup dans le doute, nous tous dans la tristesse, et votre querelle se prolonge.